Ouh, on était touchés ce matin. Hein? J'ai senti la présence de Dieu. Hein? J'avais des larmes qui coulaient dans les larmes, je ne sais pas, de guérison. C'est quand le Saint-Esprit touche nos cœurs, il y a une réaction physique quelquefois. Et nos cœurs, quelquefois, tellement endurcis, endurcis par le rythme de la vie, endurcis parce que on a perdu toute capacité émotionnelle. Et dans la présence de Dieu, il nous redonne la vie. Je ne sais pas si vous avez jamais acheté un morceau de viande qui est tout dur. Et on est un peu déçu. Mais quelquefois, nos cœurs sont comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est endurci, mais c'est un peu dur. Et après, quand on va chez l'autre, il doit croquer un peu pour nous accueillir. Et ça fait pas, ça va pas tellement. Mais Dieu, il tenderise notre cœur. Il prépare ça. Je ne sais pas, quelquefois, je pense chez les Coréens, quelquefois, ils mettent ils marinent leur viande avant. Et après, même les morceaux un peu durs, c'est bon, parce qu'on a su redonner la tendresse. Et je pense que c'est ce que Dieu a fait ce matin. Je pense que quelquefois, à cause de nos vies, l'habitude, toutes sortes de choses, nos passés, ce qu'on a vécu, nos cœurs sont un peu durs. Mais Dieu, il a... On dit ça en français, tendérisé, non? Attendri. Il a attendri nos cœurs. Hein? Un attendrissement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis tellement encouragé les jeudis soirs. Nous venons ici et déjà de voir l'église ouverte jeudi soir, il y a tous les jeunes qui sont dans leur coin, qui sont sur leur moto et qui font du bruit avec la musique, le rap et tout ça. Et donc là, ça, c'est une musique du monde qui soit bénie. J'espère qu'un jour, ils vont venir ici. Mais nous, on est ici, il y a la vie aussi dans l'église. Il y a des voitures qui arrivent. Une voiture, deux voitures, trois voitures. Et tout d'un coup, on se trouve 28 personnes, jeudi soir. Et il y a 14, quelquefois 15 personnes qui sont là pour suivre des cours alpha. Ils sont là pour apprendre plus au sujet de Jésus. Toujours content, je vois Huguette arriver, elle est souriante. Et après, il y a son amie Béa, elle a fait l'école avec Béatrice. Et elle voit cette voisine d'il y a tellement longtemps qu'elle ne s'attendait pas à venir. Et elle vient. Elle vient aussi regarder des vidéos qui parlent de la beauté de Jésus. Alléluia. Et 14 autres personnes, on est là. Et vous savez, ça m'encourage. Et je vois aussi beaucoup de parmi vous, là, vous êtes là pour aider. Nous tous, nous grandissons ensemble. Le corps de Christ est magnifique. Et même les jeudis, il y a Didier qui arrive, Colette, Jean-Luc, Annette, Sylviane. On est là pour 2 ou 3 heures. Et nous prions pour l'Église. Nous prions les jeudis matin pour l'Église. Et c'est magnifique. Et Sylviane, elle nous a encouragés de prier pour les personnes qui font le cours Alpha. Mais moi, je veux élargir la prière ce matin. Prions-nous pour tout le monde. Qu'on prie pour nos enfants, qu'on prie pour nos voisins, pour nos parents, pour tout le monde. Qu'on prie. Et moi, je prie pour vous. Je peux vous dire que quand je vous regarde, je prie pour tout le monde. Et vous voulez savoir ce que je prie? Est-ce que je prie, Seigneur, cette personne est très difficile, Seigneur? Comment est-ce que vous priez pour les gens? Comment est-ce que vous priez? Est-ce que vous priez pour les gens? Vous savez, quand vous priez pour quelqu'un, ça transforme la situation de cette personne. Il n'y a rien de plus puissant que de prier pour quelqu'un. Quelquefois, on se plaigne des autres. Ce n'est pas un problème de se plaindre des autres. Mais est-ce que nous prions pour les autres? Ça, c'est un défi. Ça, c'est le défi que Paul avait devant l'église d'Éphèse. Hein, c'était des gens, c'était sa paroisse. Et il priait pour tous les membres de l'église. Il y avait des juifs, il y avait des païens, ils étaient surtout des païens, les gens qui se détournaient de leurs idoles. Et Paul, il priait pour ces personnes. Et donc ce matin, j'aimerais vous enseigner comment prier pour les autres. Parce que quelquefois, ce n'est pas évident de prier. Comment est-ce que je dois prier pour quelqu'un? Seigneur, bénis-les, amen. Et bénis-les encore, amen. Et bénis-les encore et encore et encore, amen. Et après, on ne sait pas comment prier. Et après, bon, quand on a fait cette belle prière ce matin, magnifique devant la Sainte-Seine. Hein, quelquefois, bon, c'est pas juste l'habitude, hein, qu'on a prié ça ce matin, magnifique, notre Père. Là, on a une prière qui est donnée. Mais cette prière est un peu pour nous, c'est un peu pour adorer Dieu. Mais Paul, il nous donne deux prières dans le livre d'Éphésiens. Deux prières, deux guides. C'est comment prier? Allez, Paul, il nous donne des leçons. Comment prier en Éphésiens? Et je veux partager ces deux prières avec vous ce matin. Pas dans un but de dire « Ah, ça me donne plus de connaissances », mais dans le but que ça soit mis en pratique. Que je vais vous donner sept choses dans ces deux prières, sept choses que vous pouvez prier, sept éléments que vous pouvez prier pratiquement pour vos enfants, pour vos voisins, pour les gens autour de vous, pour les membres de notre Église surtout aussi. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi pour apprendre sept choses? Donc, je vais lire les deux prières, parce que même les prières en elles-mêmes sont magnifiques. Et donc, ça commence dans le livre d'Éphésiens. Et la première prière, c'est à partir de verset 15, dans chapitre 1. Il dit, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Amen. Wow. Paul, quelle prière tu pries pour tes amis, pour l'Église. Et il continue parce qu'il a une deuxième prière qui est plus ou moins pareille, avec des mots différents, mais avec les mêmes thèmes. Et ça, c'est en chapitre 3, à partir de verset 14. Et après, il dit, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il fait son amen après tout ça, magnifique. Deux prières. Mais il y a sept choses dans ces deux prières. La première chose, d'accord, vous les gardez en tête ou vous marquez. Il commence à rendre grâce, à dire merci. Merci. Je ne cesse de rendre grâce. Il ne faut pas cesser de rendre grâce pour les gens. Le moment que vous cessez de rendre grâce pour votre épouse ou de votre époux, c'est un moment dangereux. Il ne faut pas cesser. Il ne faut pas cesser, même après 5 années de mariage, 30 années de mariage, et pour 50 ans de mariage, merci pour mon épouse, Seigneur. Merci. Et il ne faut pas oublier le moment que vous arrêtez de dire merci pour vos enfants. Ah, ils m'ont kikine, ils ont fait ça. Il ne faut jamais arrêter de dire merci. Ça, c'est le jeu de l'ennemi, de faire cesser les remerciements. C'est trop facile à faire. Hein? Les gens nous énervent. C'est encore plus important de dire merci pour les gens qui nous énervent. Merci Seigneur, parce qu'il me montre qui je suis. Il me donne une opportunité de grâce. Merci. Ça ne veut pas dire que tu excuses ces bêtises. Là, il est responsable devant Dieu et les hommes pour ce qu'il fait. Mais moi, il me donne une opportunité de répandre la grâce. Judas a donné une opportunité à Jésus de répandre la grâce. Incroyable. Et donc, merci Seigneur. Première chose, apprendre à dire, ça crée le contexte pour la prière. Parce que quand vous dites merci, vous n'allez pas prier pour manipuler la personne. Vous n'allez pas prier avec un esprit d'amertume caché derrière. Merci. Et on peut même passer 5 minutes à dire merci pour purifier. Ça prépare le contexte pour avoir un bon esprit dans notre prière. Et donc, commençons. La première chose, hein, très pratique à faire. Et donc, vous regardez autour de vous, même dans l'église, et vous dites, je veux dire merci pour Rémi. Oh, ça me fait plaisir. C'est très facile de dire merci pour Rémi. Même pour tout le monde. Hein. C'est vraiment, mais je le fais. Et c'est assez facile, même en conduisant. Vous pensez à une personne. Tous les jours, je dis merci pour mes enfants. Merci, Seigneur. Oh, je pense à eux. Même dans toutes les... On fait la vaisselle, on est en train de... On peut dire merci, c'est facile. On n'a pas besoin d'être super spirituel pour dire merci. Mais on peut cesser de dire merci. Et si votre vie spirituelle ne va pas très bien, c'est parce que vous ne dites pas assez merci. Il ne faut pas cesser. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Merci Seigneur. On dit merci. La deuxième chose, il demande quelque chose. Merci est la première requête. Il dit, voilà, je fais mention de vous dans mes prières, fais mention des gens, et après il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne quoi? L'Esprit. Amen. Vous donne un esprit. C'est dans la deuxième prière, Paul y dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Donc la première prière pour quelqu'un, hein, c'est la deuxième chose, demandez le Saint-Esprit. Dis Seigneur, remplis cette personne du Saint-Esprit. Et même en Éphésiens, hein, c'est le thème d'Éphésiens, quand il dit 5:18, il dit, mais soyez remplis de l'Esprit. Donc tu peux dire Seigneur que mon fils Marc, moi j'ai dit ça, soit rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Remplis-le du Saint-Esprit. Voilà, c'est pas difficile. Qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et si tu veux ajouter quelque chose à ça, tu peux encore suivre la prière. Et Paul y parle d'un esprit de sagesse et de révélation. Et donc tu dis, Seigneur, donne-lui la sagesse aujourd'hui. Seigneur, donne à mon fils Marc. Vous inventez la personne, hein? J'utilise Marc comme un... parce que c'est pratique, c'est pas pour moi. Je dis pas, donne-moi l'esprit de sagesse. Mais je dis, mais donne à tel et tel la sagesse aujourd'hui. Donne-lui un esprit de révélation. De révélation, qu'il puisse voir des choses aujourd'hui. Et après, quand Paul, qu'il soit fortifié. Et quelquefois, on est tellement démoli dans la vie. Dans l'homme intérieur, il est démoli, on est faible, on est attaqué par toutes sortes de choses. Mais on peut prier, Seigneur, que telle et telle personne soit fortifiée. Et ça, c'est 3 attributs du Saint-Esprit. Donc ça, c'est la deuxième chose. Tu pries pour... Donne-lui le Saint-Esprit, remplis-le, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, esprit de sagesse, esprit de révélation, esprit de force. Amen. Et après, troisième chose, parce que quand tu as le Saint-Esprit, et quand on parle de révélation, d'accord, ça parle de Jésus-Christ. Donc on peut dire que Jésus soit le centre de sa vie. Et ça, c'est ce que Paul prie ici. Il utilise un autre langage, mais il dit qu'il vous donne un esprit de sagesse, de révélation, qui vous le fasse connaître. Le fasse connaître. Qui est le, c'est Jésus. Que vous connaissiez Jésus. Et tu pries pour quelqu'un, tu dis, mais que c'est le troisième prière, que cette personne connaisse Jésus-Christ. Que sa connaissance de Jésus-Christ grandisse. Et connaître Jésus, c'est connaître l'amour. D'accord? Connaître Jésus, c'est connaître l'amour. Et dans la deuxième prière, c'est un peu plus étoffé, parce que verset 17, là, c'est Éphésiens 3, il dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Ah, Seigneur, tu pries ça pour une personne. Tu dis que tel et tel soit enraciné et fondé dans l'amour, fondé en Jésus-Christ, fondé, enraciné dans l'amour. Tu n'as pas besoin, tu peux juste même lire, avoir ta Bible ouverte et prier ces prières. Jésus-Christ au centre, l'amour au centre. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu habitait dans un temple. C'était le tabernacle dans le désert, après on a placé le tabernacle dans le temple de Salomon. Donc là, c'est là, et tu voulais voir Dieu, allez, il est là. Mais dans le Nouveau Testament, c'est ce que Paul dit en Éphésiens. Maintenant, c'est nous, nous sommes le temple. Christ, il habite au milieu de nous, des relations. Mais il habite dans nos cœurs. Que le Christ habite dans vos cœurs. Alléluia. Que, ça veut dire que Christ habite dans le cœur de ma femme, Seigneur. Que je suis marié à Sylviane, mais je suis marié à Sylviane qui a Christ dans son cœur. Oh, quelle bénédiction! C'est Jésus qui me sert le petit déjeuner le matin, qui me donne un croissant et un pain de chocolat. Mais c'est magnifique! Mais c'est magnifique dans moi des yeux de voir ça, Seigneur. Alléluia. Et si ça ne brille pas tellement, quelquefois, je peux encore prier. Je peux encore prier. Je peux être dans mon lit et dire, voilà, Seigneur, que Christ vienne. Viens m'apporter une tasse de café. Mais moi aussi, ma femme peut aussi prier pour moi. Seigneur, que Jésus brille dans le cœur de mon mari et qu'il m'apporte une tasse de thé ce matin. On verra qui va gagner. Et si les deux gagnent, il y aura deux tasses de thé qui arrivent. Oh non, laisse-moi faire. C'est beau. Et donc, voilà. C'est que remercier Saint-Esprit, Jésus, d'accord, que Christ soit le Saint. Quatrième chose, hein, parce que en verset 18, Paul prie que les Éphésiens soient capables de comprendre cet amour. Et donc, la cinquième chose, c'est de prier pour une révélation. C'est la quatrième chose, d'accord. D'accord. 1, 2, 3, 4. Quatrième chose. Priez pour une lumière intérieure. Parce qu'il dit en verset 18, qu'il vous le fasse connaître Jésus, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Peut-être c'est ça, quand je parlais d'avoir le cœur attendri. Je pense que c'est ce que Dieu a fait ce matin. Il a mis un peu plus de lumière dans notre cœur. Parce que là, je vois avec mes yeux, voilà. Ici, je n'ai pas des lunettes, je ne vois pas très bien. Il n'y a pas assez de lumière. Mais si je mets mes je vois clair. Et quelquefois, il faut mettre des lunettes sur le cœur, parce qu'on ne voit pas assez combien on est aimé par le Seigneur. C'est le petit Renard de Saint-Exupéry qui a dit « Les choses essentielles, on voit avec le cœur ». Les choses essentielles, on voit avec le cœur. Et donc, le christianisme, bon, c'est bien de comprendre, mais c'est plus de comprendre avec le cœur. C'est une question de cœur, c'est pas une question de baccalauréat ou de diplôme. C'est une question de cœur. Et d'avoir un cœur qui est ouvert, qui est illuminé. Quelquefois, les gens, ils ont le cœur voilé. C'est voilé par la condamnation, par le passé, par le péché, par des erreurs, par une mauvaise conscience. Et Dieu, il ôte le voile. Alléluia. Il ôte le voile. Et vous allez voir ça quand vous rencontrez des gens. Quelquefois dans la rue, vous allez rencontrer les gens voilés. Pas juste les femmes arabes, hein, mais les gens qui ont le cœur voilé. Et tu sens que, même quand il y a quelque chose qui est emprisonné, mais en Christ, tu vois, il enlève le voile. Et la lumière, la beauté de la personne, la beauté de son humanité en Christ sort. Parce que chacun est beau. Et on est voilé, quelquefois même par la religion. On peut être voilé par les lois, les devoirs. Mais voilà, tout est enlevé. Le voile est enlevé en Christ. Quelqu'un a prié ça ce matin. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Peut-être que je peux juste vous faire lire 2 Corinthiens et chapitre 4, parce que ça parle encore de la bataille d'un côté, d'avoir un cœur illuminé à l'intérieur. Il y a une bataille. Il y a quelqu'un qui veut que votre cœur soit voilé. Voilà, 2 Corinthiens, chapitre 4. C'est l'évangile, c'est comme une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est quand la parole de Christ est annoncée. Jésus a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Et Christ, dans sa parole, il est la lumière. Et donc Dieu veut donner la lumière à tout le monde, à chaque cœur. Mais il y a une bataille. Et nous voyons ça à partir du verset 3 de Corinthiens chapitre 4. Si notre évangile est encore voilé, c'est intéressant ça. Pas voir la lumière, mais ça ne pénètre pas. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle. D'accord? Le Dieu de ce siècle, l'idéologie de ce monde. Et je crois vraiment à une personnalité satanique aussi. Mais toutes ces idées, toutes ces pensées athées, ces pensées destructrices, ces pensées égoïstes, toutes les idéologies de ce monde véhiculées par les médias, tout ça, ça voile les cœurs. Et ça nous rend incrédules. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Est-ce qu'on voit Christ avec le cœur? Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Amen. Le Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Moi, je crois que Dieu fait cette transaction. Il l'a déjà fait ce matin dans l'adoration. Il peut le faire pendant que je pars. Peut-être là, il y a des ténèbres. Nos cœurs sont voilés. Je ne me sens pas aimé. Je me sens écrasé par la vie. Je n'ai pas la foi. Je suis incrédule. Il y a des choses que je n'arrive pas à recevoir. Mais Dieu, il a fait briller dans nos cœurs la connaissance de Jésus. Qu'il illumine les yeux de notre cœur. C'est une belle prière. Quatrième chose à prier. Seigneur, que les gens aient une illumination intérieure. Que tu ouvres les yeux du cœur de telle et telle personne. Tu pries que ça soit une question de cœur. Que tu ouvres leur cœur. Voilà, cinquième chose. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'espérance dans l'engagement, l'espérance dans l'appel. Cinquième chose, prie Seigneur, remplis telle et telle personne d'espérance. Remplis-lui d'espérance, Seigneur. L'espérance, c'est une force. C'est une force. Ces trois choses demeurent. la foi, l'espérance et l'amour. Et donc, l'espérance, c'est tellement positif. Pour les gens qui sont désespérés, prie qu'ils aient de l'espérance. On n'a pas même besoin de leur parler tout le temps. Mais est-ce que, vous imaginez, la personne, il ne connaît même pas que vous priez qu'il ait de l'espérance. C'est magnifique. On peut prier pour les gens sans qu'ils connaissent, qu'on prie pour eux. Mais prier, c'est la cinquième chose, prie qu'ils aient de l'espérance. D'accord, cinquième chose. Donc, il faut dire merci, prier pour l'esprit, il faut prier qu'il soit centré sur Jésus, il faut prier pour une illumination intérieure, que le Dieu de ce siècle soit lié, que le voile soit ôté en Jésus-Christ. Il faut prier pour l'espérance. Sixième chose. Ouais, on peut suivre, là c'est verset 18 toujours. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Et quelle est la glorieuse richesse de son héritage? On prie que quelqu'un puisse voir pleinement la richesse de son héritage. Ou tout plus simplement, je prie que tel et tel entre dans son héritage. Que son héritage ne soit pas volé. Tu sais, on a des histoires, des avocats un peu corrompus qui cachent le fait que quelqu'un a hérité quelque chose. Ouais. Il y a les notaires, ils ne disent pas, voilà, tu as hérité 10 millions, il y a les gens qui vivent dans la pauvreté toute leur vie, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont un héritage. Et je pense qu'il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Et nous avons tous un héritage. Qu'on prie que les gens voient la glorieuse richesse de son héritage. Et cet héritage, surtout en Éphésiens, c'est notre héritage juif. C'est notre héritage juif. Et l'héritage juif n'est pas à négliger. C'était la grande révélation de Paul. Il dit plus tard en Éphésiens 3, 4, la révélation que Paul a eue, verset 6, 2, 3, 6, les païens, c'est-à-dire toutes les autres nations, toutes les autres, les goïs, comme on disait en hébreu, tous ces gens pervertis, loin, cassés, avec les faux dieux, avec des mœurs terribles, Dieu avait choisi Abraham. Il a dit, Abraham, je vais choisir ton pays, je vais choisir Israël comme la prunelle de mon œil. C'est magnifique. Tu es béni, tu seras béni, tu seras béni, tu seras béni. Quel héritage de bénédiction. Et les autres, ils étaient sans Dieu et sans espérance dans le monde. Ils étaient écartés de ça. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Paul, il a compris. Il a dit, les païens ont un même héritage. Vous vous racontez, un même héritage forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Cette même promesse. Donc nous, on a un héritage de bénédiction. De bénédiction. Et la bénédiction juive, tout l'Ancien Testament, toute la richesse, c'est une bénédiction de prospérité. Une bénédiction de santé. Yahweh, Raphaël, la bénédiction de santé. Parce que c'est vrai, on veut souvent prier. Voilà, que quelqu'un soit guéri. Que quelqu'un puisse payer leurs factures, que quelqu'un puisse réussir dans leur vie. Il n'y a pas, c'est bien de prier ça pour nos enfants, mais il faut mettre ça dans le contexte. Si on a le droit à une bénédiction, c'est parce qu'on a l'héritage. C'est déjà acquis dans mon héritage. C'est pas une sorte de vaine pensée positive. C'est un moi déjà. Ça peut vous fortifier dans vos prières. Et je peux résumer cet héritage dans un mot. Shalom. Nous avons l'héritage, nous sommes enracinés dans le shalom. Le roi David est mon ancêtre, Abraham est mon ancêtre, le païen que je suis. J'ai Abraham, j'ai David, j'ai Salom. Merci. Et c'est pour ça que j'aime Israël aussi. C'est impossible de ne pas aimer. C'est impossible de ne pas aimer Israël. Parce que j'ai cet héritage, même héritage. Donc on peut prier ça. Oui, c'est la sixième chose. Shalom. Shalom pour telle et telle personne. Mais derrière ça, tout l'héritage béni. Et comme il dit, la glorieuse richesse de cet héritage. Va voir le royaume de Salomon. Va voir toutes les bénédictions que Dieu promet dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas être limité au Nouveau Testament. Parce que notre héritage, c'est aussi l'Ancien Testament, les bénédictions de Shalom, de Hesed, l'amour indestructible. Jésus est l'incarnation de Shalom. La Shalom a été faite chair en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste le Logos. Ça, c'est trop grec, même si c'est la traduction, et je dispute pas ça. Mais le Shalom, quand l'ange a dit à Marie, Shalom, le Shalom est entré dans son oreille, et le Shalom est devenu chair. Et nous, on est tous bénis en Jésus-Christ. Prospérité, Shalom. Non, moi, je dis sur mes enfants, Shalom, Shalom. Oh, merci Seigneur. Et voilà, pour terminer, la dernière prière, septième. Il prie, il dit, verset 19, « Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons ?» La puissance, la dynamis, c'est comme dynamite, dynamo, la lumière, l'explosivité, la puissance. Mais cette explosion, c'est l'explosion de la résurrection. La mort est vaincue, on a des vies qui ne sont plus assujettis à la mort. Alléluia. On peut prier qu'il y ait une explosion de vie chez nos frères et sœurs. Que nous vivions en nouveauté de vie, ressuscités pleinement avec Christ. Et comme Paul dit plus tard dans cette prière, on est assis avec lui dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes. Regardons en bas l'ennemi vaincu. Regardons en bas mes problèmes. Parce que j'ai cette place d'héritier, cette place de victoire. Et je peux prier ça pour mes frères et sœurs, qui sont quelquefois si accablés, si en bas par leurs problèmes. Ce n'est pas une condamnation. Et je ne les condamne pas du tout, mais je prie qu'ils connaissent la puissance de la résurrection. Alléluia. Et cette puissance, Paul il le dit en verset 18 d'une manière extraordinaire dans Éphésiens 3, dans la deuxième prière. Il centre sa prière sur cette puissance. Et je pense que quand il priait cette prière, il pensait à son héritage dans l'Ancien Testament. Il pensait au temple de Dieu, là où c'était un lieu aussi de puissance et de réveil et de prière. Et il dit, voilà, je vais partir du verset 18, Éphésiens 4. Il dit, pour être capable de comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur. C'est bizarre, hein? Largeur, longueur, profondeur, hauteur. Il commence à mesurer, il sort son règle, il mesure le cœur, le temple là où Jésus habite, qui est à l'intérieur, longueur, largeur, et de connaître l'amour qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez, par d'être remplis jusqu'à la plénitude. Il dit, il reste la place, là, regarde là, jusqu'à la plénitude. Aura celui qui par la puissance, qui agit dans le pasteur, non, qui agit en nous, chacun de nous. Il y a une puissance qui agit en vous, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et là, je pense que pour le penser à la fin d'Ézéchiel, et il y a d'autres versets aussi, parce qu'il y a beaucoup d'images d'un homme qui mesure, d'accord? Et donc, si on peut juste voir Ézéchiel 40... Parce que à partir du verset 40... En Ézéchiel, tu as une image d'un homme qui commence à mesurer des choses. Je vais juste, on peut peut-être commencer avec ça. Ézéchiel 40, verset 3. Il me conduisait là-bas, et voici qu'il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect du bronze. Il avait dans la main un cordeau de lin et une canne à mesurer. Et il se tenait près du porche. Et après, tu as plusieurs chapitres où il mesure tout dans le temple pour voir si c'est en ordre, si c'est pur et tout le reste. Et après, on arrive en chapitre 47. Il est toujours là en train de mesurer. Et verset 3. C'est le temple, d'accord, mais c'est notre cœur en Éphésiens, là où Jésus habite. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau où? Jusqu'aux chevilles. Ah, c'est bien, jusqu'aux chevilles. Comme quelquefois les vieilles dames ou les enfants, on n'aime pas nager, on aime bien juste soulever un peu la jupe et mettre des chevilles un petit peu dans la mer. Et donc la vieille dame église, elle aime bien arroser ses chevilles de temps en temps et on dit c'est le réveil. Mais bon, ce n'est pas un problème que vos chevilles soient arrosées. Mais celui qui est là, il dit, il mesurait encore. Il mesura encore. Et je veux dire que Dieu veut mesurer en nous encore ce matin. Il veut plus, d'accord? Il veut plus. Il mesura encore. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Ah, ça commence à être dangereux, hein? Presque aux cuisses. Hein? On dit, ça va, jusqu'aux genoux, ça va. Et il mesura encore. Il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein. Voilà, ça c'est le point critique qui est traversé. Je ne sais pas si vous avez jamais sauté dans la mer, c'est quand ça te touche. Ah, c'est et là tu es obligé d'y aller. C'est au genou, tu peux te retirer. Mais là quand... allez, je plonge. Tu vois? Et Dieu veut qu'on plonge. Il veut qu'on plonge. Il mesurait encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde. Hein, tu vois, Paul, la profondeur, la largeur, la hauteur, il mesure. C'était si profond. Si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Dieu veut le torrent dans notre vie, il veut le réveil. Et on peut prier la puissance de Dieu, le réveil de Dieu, le débordement de l'eau vive dans le cœur de ce temple qui est l'Église, jusqu'à ce que vous soyez remplis, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voulez savoir ma prière pour vous tous? Je le prie ça, je dis, mais Rémi, sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Que vous soyez pris dans ce courant. Pascal, que vous soyez pris. Didier, je prie ça pour tout le monde. Je prie ça, j'utilise ces prières. Et je vous encourage de prier ces prières pour vos enfants, votre famille, vos amis. Et même, prenez quelqu'un de l'église et priez ça. Priez ça pour moi si vous voulez. Mais priez ça. D'accord? Les 7. Merci Seigneur. Allez, je vais prier pour ma femme pour terminer. Seigneur, merci pour ma femme. Merci pour Sylviane, Seigneur. Remplis-la du Saint-Esprit. Donne-lui la sagesse, Seigneur. Donne-lui, Seigneur, d'avoir une révélation de ce qu'il faut faire, Seigneur. Donne-lui d'être fortifié dans son cœur, Seigneur, à l'intérieur. Seigneur, qu'elle puisse vraiment avoir Christ au centre de sa vie. Ouvre les yeux, Seigneur, qu'elle puisse vraiment connaître l'amour. Seigneur, donne-lui d'avoir une illumination intérieure, que les yeux de son cœur s'ouvrent, Seigneur. Vraiment, que le prince de ce monde ôte, que le prince de ce monde, le Dieu de ce siècle, soit anéanti et que tout voile soit enlevé de son cœur pour qu'elle puisse voir vraiment combien il est aimé, Seigneur. Donne-lui de l'espérance. Seigneur, qu'il puisse voir son héritage de shalom. Je dis sur toi, Sylviane, shalom. Et Seigneur, qu'il puisse avoir la puissance du réveil en elle. Seigneur, que ça déborde, qu'il y a vraiment, Seigneur, un débordement du Saint-Esprit de sa vie, qu'elle soit remplie jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et toi, Seigneur, tu peux faire, par la puissance qui a vie en elle, infiniment au-delà de tout ce que je te demande. Même ma prière, tu peux faire au-delà de ce que je demande. Et je prie ça pour notre Église aussi, Seigneur. Cette Église qui est un cadeau, qui est une bénédiction pour nous tous, Seigneur. Seigneur, donne-nous de prier les uns pour les autres. Mais c'est cette chose dans nos cœurs pour prier pour nos enfants, pour prier pour nos familles, pour prier, Seigneur, les uns pour les autres. Pour prier, je prie ça pour tous les gens qui font le cours Alpha, Seigneur. Merci pour ces personnes. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse.